Sure. Because I love music. It's in my head. I can't get it out.
Here we go with Miles Davis and the quintet from Birdland with...
Hey, George. I might leave out number letter F, you know? That might leave out all this part.
The controversial Miles Davis. We call him controversial because some people like him, some people don't.
Intégral Miles, ou la poursuite donc de l'œuvre et de la vie de Miles Davis. Alors on avait donc quitté Miles fin 1960, c'est-à-dire juste à la fin de sa tournée européenne, qui a duré plus d'un an. Et je vous indiquais donc qu'il s'était donc marié le 20 décembre avec Friends. Eh bien, après ses retours aux États-Unis, et à la grande surprise de Miles, eh bien, tout n'est pas comme il pensait que cela devait être. En effet, il pensait qu'après l'album Kind of Blue, il y aurait pratiquement, peut-être pas des majorettes pour son retour, mais au moins une foule d'enthousiastes. Eh bien, figurez-vous que Miles est un peu parti aux oubliettes. Ceci pourquoi ? Eh bien parce que le jazz a beaucoup évolué pendant son absence. On va d'abord commencer par la partie famille. Il a de gros soucis familiaux, Miles, non pas parce qu'il s'est marié, mais parce que sa mère lui a déclaré qu'elle avait un cancer, et son père s'est fait renverser par une voiture et il ne marche pratiquement plus. Donc Miles a déjà ses problèmes familiaux à régler, entre parenthèses, bien qu'il s'en soucie, on va dire, d'une manière distraite à la Miles. Mais surtout, dans le domaine du jazz, Mr. Miles, vous n'êtes plus la vedette que vous étiez. Parce que figurez-vous que lorsque Coltrane est parti de chez vous, il est rentré aux États-Unis avant vous. Et par conséquent, il a constitué un quartet qui fait fureur, à tel point que même le Birdland, qui était donc l'endroit privilégié de Miles, dorénavant programme Coltrane. Parce que Coltrane, il s'est fait une petite... une petite faveur, il s'est constitué un Coltrane quartet qui va marquer l'histoire du jazz, puisqu'il va avoir à côté de lui, tout simplement, Don Cherry à la trompette, puis aussi Charlie Haden à la basse, Ed Blackwell à la batterie, et il a gravé le 28 juin 1960, donc il y a déjà un moment, l'album The Avant-Garde. C'est vous dire que les choses évoluent et que Miles n'est plus du tout d'actualité. Donc par John Coltrane, extrait de l'album The Avant-Garde, le titre The Invisible. Thank you. John Coltrane, The Invisible. Eh bien, on peut dire que pour Miles, le retour, ça se passe pas comme il voulait. Donc, arrivé à Noël, en 1960, donc, on va tout d'abord commencer une tournée avec les compères du moment, je rappelle, Sonny Stitt, Jimmy Cobb, Paul Chambers et Wynton Kelly. On va commencer une tournée tout d'abord par Chicago. Tout de suite après, ce sera Philadelphie, où Miles va peut-être commettre l'erreur, on peut dire, de sa vie. Il va se faire l'intermédiaire pour une très importante rencontre entre John Coltrane et Elvin Jones. Coltrane joue alors avec Billy Higgins, mais Miles sent très bien que le batteur qu'il lui faut, c'est Elvin Jones. Alors il va faire en sorte qu'ils puissent discuter entre eux, se rencontrer, et Miles souhaite quand même vivement que Coltrane réintègre le groupe, évidemment. Il va, sans le savoir, faire en sorte que cela devienne totalement impossible. Parce que, après l'arrivée d'Elvin, dans le quartet donc, de Coltrane, provoqué par Miles, eh bien, le quartet de Coltrane sera nommé meilleur quartet de l'année par la revue Downbeat. De plus, les temps ont bien changé depuis son départ en Europe. Un autre quintet tient le haut du pavé, mené et dirigé par un saxophoniste inconnu de Miles Davis. C'est le saxophoniste qui va révolutionner le jazz à ce moment-là, c'est Ornette Coleman. Il est, on va dire, préfigurateur du free jazz avec son quintet. Quintet composé encore, là aussi, de Don Cherry, puis aussi Scott LaFaro, donc le bassiste de Bill Evans, et Ed Blackwell. Et ils vont donc enregistrer le 31 janvier 1961 un deuxième album après un premier qui était paru sous le titre de Free Jazz. Celui-ci aura pour titre tout simplement Ornette. On va écouter le groupe d'Ornette Coleman avec ce thème « Si ». Andy. Ornette Coleman, si and D. Alors, passe encore Ornette Coleman, il apprécie à moitié, dirons-nous. Il considère quand même que ce jazz, c'est très loin, évidemment, très très loin du Kind of Blue. Et par conséquent, il a du mal un peu à comprendre tout cela. Et puis alors, il y a un musicien qui peut vraiment pas saquer, d'ailleurs, c'est Cecil Taylor, le pianiste. Il va déclarer qu'il est arrivé à peu près en même temps qu'Ornette, peut-être quelques mois après, il a plus vraiment un grand souvenir de tout cela. Et il va déclarer, il fait la même chose au piano qu'Ornette et Don Cherry. Ils font des notes pour faire des notes. Voilà, ça leur plaît et ils considèrent que ça, c'est la nouvelle forme musicale. Bon, eh bien, des notes pour des notes, hein. Une exhibition de technique, certes, mais intrinsèquement, là-dedans, il n'y a aucun sentiment. Pour lui, il n'y a rien. C'est du vent. Et c'est pourtant pas ce que pense le public. Alors, si Miles se veut généreux avec certains musiciens, les siens, mais il va aussi, quelquefois, envers le public, on ne sait pas trop pourquoi, eh bien, il n'est pas du tout du même avis au niveau des critiques. Figurez-vous que le manager de Don't Beat va lui suggérer quand même que, compte tenu de sa notoriété, de son passé, eh bien, il est souhaitable que la revue Don't Beat lui offre un peu une forme de consécration momentanée. Et il lui propose donc de faire ça sur scène, en disant « Bon, ben Miles, ce serait bien qu'on puisse faire cela, et connaissant Miles, il ne va pas lui demander des salamalecs. » Un simple « thank you », un simple remerciement, il fait sa demande par lettre. La réponse de Miles ne va pas tarder, il va retourner la lettre qu'il a reçue, il va entourer le thème « thank you », et puis en marge, il va rajouter « fuck you ». Voilà comment Miles traitait déjà les journalistes à l'époque. Vous imaginez que ça ne met pas du beurre dans les épinards et que, effectivement, peut-être que la revue Don't Beat, elle n'a pas vraiment apprécié les sauts de caractère de Miles Davis. Alors, en plus de ça, manque de chance, ou ça devait arriver, peut-être que ça arrangeait Miles, on ne sait pas, Sonny Stitt va décider de quitter le groupe. Par conséquent, Miles est à nouveau sans saxophoniste. Puisque Coltrane a son propre quartet qui marche bien, Sonny Rollins, n'en parlons pas, donc chou blanc. Alors il va se tourner vers un autre saxophoniste dont il a entendu parler quand même, parce que Hank Mobley, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un monsieur qui a fait des classes et qui a fait les beaux jours des Messengers d'Art Blakey. Il va donc accepter que Hank Mobley vienne jouer avec lui. Et il sait en plus qu'il a un contrat avec Columbia, et que par conséquent, il va devoir rentrer en studio. Donc en mars 1961, avec son nouveau groupe, donc je rappelle, Wynton Kelly a définitivement chassé Bill Evans du piano, Hank Mobley, lui, est venu remplacer Coltrane, eh bien, ils vont graver l'album « Someday My Prince Will Come ». C'est aussi une révolution dans l'esprit de Miles, cet album. D'une part, non pas tellement du point de vue musical, mais figurez-vous qu'il a décidé qu'à dater de ce moment-là, eh bien, sur toutes ces pochettes, il y aura au moins une figure, pas forcément de légende, mais il y aura forcément des blacks sur la pochette. Bien évidemment, compte tenu de la notoriété et de la beauté de Friends, eh bien, c'est elle qui va inaugurer le truc. Par conséquent, si vous avez la pochette de Someday My Prince Will Come, vous avez le portrait de Madame Davis. Voilà, c'est ainsi que Miles commençait à un peu s'émanciper. Il avait un peu pris la grosse tête, il faut dire, parce que, en plus de ça, dorénavant, les petits cachets, il faut oublier. Hein, parce que Miles s'est acheté une Ferrari, il est sapé comme un Premier ministre, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, par conséquent, il parade avec cette très belle femme. Donc, pour lui, tout va très bien, même si, au point de vue des contrats et tout ça, c'est pas encore le top. Toujours est-il qu'ils vont donc rentrer en studio, et le 7 mars, ils vont enregistrer deux thèmes qu'on va volontairement enchaîner. Le premier, ce sera « Drag Dog », et le deuxième, ce sera « Fronting », donc évidemment, hommage à sa femme. En réalité, c'est une version à peu près édulcorée, mais à la manière Miles, du thème qu'il avait composé « No Blues ». Thank you.
Thank you.
Miles Davis, mars 1961, extrait de l'album donc Someday My Prince Will Come. C'était donc tout d'abord Drunk Dog, suivi donc de Francine. Il va déclarer également à l'époque, je vous dis, il a vraiment la grosse tête, hein, parce que en plus de ce qu'il espérait, le disque marche bien. Miles pensait que ça allait être l'apothéose, hein, il allait en vendre des milliers et des milliers. Eh bien, le public est un peu boudeur quand même. Alors il va donc déclarer, plutôt que faire tête basse et considérer que bon, peut-être que sa musique, il faut qu'il la revoie, il va tout simplement indiquer, après tout, c'était mon disque. Donc je faisais ce que je voulais. Et sur le thème Francine, qui figurait sur le disque, il avait été écrit pour Friends. Je me suis ensuite débarrassé de tous ces textes de pochettes stupides, ce que j'essayais de faire depuis déjà très longtemps. Je n'ai jamais pensé que quiconque pouvait dire quoi que ce soit sur de mes disques. Je veux que les gens écoutent la musique et se fassent une opinion personnelle. Je n'ai jamais aimé qu'on écrive sur ce que je joue sur un disque, qu'on essaie d'expliquer ce que j'essaie de faire. La musique parle d'elle-même. Donc déjà un certain mépris vis-à-vis de son public, malgré tout. Alors, tout cela n'arrange pas les affaires, effectivement, et chez Columbia, Ted Macero, il le prend bien, mais enfin, préférait plutôt que Miles aille expliquer que, bien évidemment, c'est un nouveau quintet et que par conséquent, il y a quelques petites bévues, mais que c'est un peu normal, que si ce n'est pas dans l'actualité immédiate du jazz, c'est quand même le jazz de Miles Davis et que Miles Davis, c'est quand même une star. Donc on en est un peu là. Et puis, quand même, après tout, Miles, il va le dire, hein. Je n'aime pas jouer avec Hank Mobley. Il m'apporte rien. Rien du tout. Par conséquent, il est là, c'est bien. Il ne serait pas là, ça serait pareil. Donc, pour cette séance d'enregistrement, à force de coups de téléphone, à force d'entremise, il va réussir, pour deux ou trois thèmes, à ce que Coltrane revienne dans le quintet. Et donc, Coltrane figurera sur l'album, mais Hank Mobley aussi. On va donc écouter un thème de cet album, « Someday My Prince Will Come », c'est la ballade Old Folks. Thank you. Miles Davis, donc Old Falls. Alors, il va également faire valoir que, évidemment, il s'ennuie avec Hank Mobley. Et il n'hésitera pas à déclarer à qui veut l'entendre que si un soir, tout à fait par hasard, Sonny Rollins venait écouter le groupe, parce qu'à l'époque, il passe au Vanguard, donc le nouveau club émergent de New York, eh bien, il déclarera que si, par le plus pur des hasards, il ne l'aura pas invité, évidemment. Si Sonny Rollins vient m'écouter, écouter le groupe avec son sax, immédiatement, je vire Hank Mobley et Sonny Rollins à le poste. Voilà un peu comment Miles considérait là aussi ses musiciens. Il va déclarer, de toute manière, je m'ennuie. La musique m'ennuie, il va falloir que je fasse quelque chose d'autre. Ça viendra plus tard, parce qu'il va partir au Black Hawk, enfin, on en reparlera un peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est dans cette ambiance-là que le groupe va tourner et enregistrer cet album. Alors, est-ce dû au fait que, effectivement, Miles n'est pas tout à fait satisfait de ce qui se passe pour que cet album n'ait pas le succès prévu? On ne sait pas. Toujours est-il qu'on va écouter le titre éponyme de l'album, Someday My Prince Will Come. Thank you. Someday, my prince will come. Alors évidemment, le prince, vous vous en doutez, le prince, c'est Miles Davis. Sait-on s'il a voulu reprendre ce thème parce que, comme il le dit, il est donc le prince de Friends, ou bien se considère-t-il comme le prince du jazz? On ne saura jamais. En toujours est-il que c'est peut-être le meilleur morceau, le plus réussi de l'album. Vous l'avez constaté avec tout d'abord un Paul Chambers qui, avec une seule note, arrive à maintenir le tempo. Ensuite, ça va passer un peu sous la forme de valse lente avant que, effectivement, Jimmy Cobb intervienne beaucoup plus fortement et transforme encore ce morceau pour revenir à la forme initiale. C'est donc une totale réussite. Et puis, il faut dire que l'apport de Coltrane, quand même, on sent que ils sont tous contents de se retrouver là. Hank Mobley étant peut-être le plus faible, mais qu'importe, le quartet, on va dire, sans qu'Hank Mobley fonctionne à merveille. Toujours est-il que, eh bien, Miles est satisfait, tellement satisfait que pour une fois, eh bien, il va accepter qu'il y ait une deuxième prise. Mais tout ça, vous verrez, on l'écoutera pour la prochaine fois, parce que même si Jimmy Cobb a fait ce qu'il fallait pour maintenir le tempo et faire en sorte que le disque soit une réussite, eh bien, Miles trouve qu'on peut mieux faire. Et comme Coltrane n'est pas venu tout seul, qu'il est venu avec Elvin Jones, eh bien, une nouvelle surprise. Dans le autre morceau, on entendra cette fois-ci non pas Jimmy Cobb, mais donc Elvin Jones. Voilà, c'est comme ça avec Miles, on change sans arrêt. C'est toujours aussi bien, dirons-nous, mais ça évolue très très vite. On se retrouve donc plus tard pour retrouver Miles Davis dans l'intégrale Miles, bien entendu. Bonsoir.